Écho d'économie.
Plusieurs biens de l'État congolais sont menacés de spoliation. Pour prévenir cette situation, mandataires des entreprises, professeurs d'université, parlementaires et experts du gouvernement ont réfléchi sur la protection des biens et droits de l'État. Elle a une également la nouvelle technologie de bitumage qui voit le jour en RDC. Souple et moins coûteux, cette œuvre de la société Hydroformule vient accroître le nombre d'usines en République démocratique du Congo. La tension entre Kibali Gold Mine et la Sokimo, nous en parlons encore. Et ce soir, c'est le gouvernement de la province orientale qui propose des pistes de solutions à ce conflit. Bonsoir à tous. L'atelier sur la protection des biens et droits de l'État ainsi que des entreprises publiques transformées s'est clôturé samedi dernier. Les mandataires de ces entreprises, les professeurs d'université, parlementaires et experts du gouvernement répartis en trois ateliers ont réfléchi pendant deux jours et ont proposé une gamme variée de recommandations pour sauver le patrimoine de l'État menacé de spoliation. Un projet de loi définissant les biens et droits de l'État qui ne peuvent être saisis a été également examiné. Daniel Tambinzoni, bonsoir. Vous aviez suivi pour nous cet atelier. Une idée sur les grandes recommandations?
Bonsoir Mireille. Des recommandations, en tout cas, il y en a eu plusieurs. Si je peux en citer quelques-unes, les séminaristes ont proposé au gouvernement congolais de finaliser le processus de transformation des entreprises, définir le patrimoine de chacune d'elles. L'État doit aussi payer sa dette vis-à-vis de ces entreprises. Pour certains experts à cet atelier, il faut ériger un marché financier national pour permettre aux entreprises de lever des capitaux afin de devenir elles aussi compétitive. Il faut reformer l'administration en procédant au recrutement par appel d'offres, ont-ils dit.
Mais pour quelle raison organiser aujourd'hui un atelier de protection? Sent-on un danger venir?
Danger, oui, Mireille. En interne, d'abord, il faut dire que les agents de l'administration publique, entendez par là, les conservateurs de titres fonciers et immobiliers, les cadastres et autres services, les forces de l'armée, de la police et des services de sécurité et bien d'autres, même des tierces personnes, sont identifiés en RDC comme ceux qui veulent déposséder l'État de ces immeubles qui sont répartis à travers le territoire national. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, Mireille, c'est avec l'adhésion de la RDC à l'OADA. Rappelez-vous que les entreprises du portefeuille qui sont transformées en sociétés commerciales connaissent aujourd'hui un surendettement et les créanciers n'attendent qu'avec la loi OADA pour se saisir des biens de ces entreprises. C'est donc par cette crainte de perdre ses biens que le ministère du portefeuille a organisé cet atelier dont le but était d'arriver à examiner le projet de loi qui devrait définir clairement les biens qui ne peuvent pas être saisis, quelles que soient les circonstances.
Toutefois, Daniel, une question m'intrigue quand même. En principe, c'est l'État qui protège ses biens et même ceux des particuliers. Mais là, nous sommes face à une situation où l'État lance carrément un SOS. De qui a-t-il peur et qui peut mieux protéger les biens de l'État si ce n'est l'État lui-même?
Qui peut bien protéger les biens de l'État? Eh bien, c'est la question que beaucoup de Congolais qui ont suivi cet atelier se sont posées. Lorsque l'État lui-même ne sait pas se protéger, puisque c'est lui qui gère, alors on se pose la question qui protégera mieux les biens de l'État que l'État lui-même.
Je comprends, Daniel. La question reste posée et entre-temps, Paul Matendo va plus ou moins éclairer notre lanterne en proposant un zoom sur la gestion de la chose publique.
Avant de parler des biens publics, disons un mot de manière générale sur ce qu'on appelle un bien. Il s'agit de tout type d'avoir, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs. Parlons alors de biens publics. Ils sont ceux appartenant à l'État, aux collectivités décentralisées, aux établissements et entreprises publiques ou encore des biens dont la gestion est confiée à l'État. En sciences économiques, un bien public est un bien ou un service dont l'utilisation est non rivale et non exclusive. On parle aussi d'un bien public mondial ou bien public global pour désigner des biens publics très étendus, par exemple la qualité de l'air, la biodiversité, la situation situation climatique mondiale, les réseaux Internet, bien que cette notion soit l'objet des critiques virulentes, est loin d'être stabilisée et unifiée. Un mot sur le bien privé. Un bien privé est exclusif et le plus souvent rival. Tout le monde ne peut pas en profiter en même temps. Bref, un bien privé est celui qui n'appartient pas à tous. Il peut faire l'objet d'échanges durant lesquels sa propriété ou son usage change de main. Exemple des biens privés, logement, habits, voitures, jouets, etc., etc.
La société Hydroformule a inauguré ce vendredi à Kinshasa une nouvelle technologie de bitumage. Il s'agit de la réalisation des bitumes en sac thermofusible produits par le groupe Total. Selon Patrick Dejean, directeur général de cette entreprise, en plus du respect des normes écologiques, cette technologie coûte beaucoup plus moins cher que les bitumes en fût. Le directeur général de la société Hydroformule ajoute que l'objectif est de monter en RDC des usines de fabrication de ces bitumes. Patrick Dejean est au micro de Paul Matendo.
Nous avons décidé de nous impliquer dans ce processus d'accompagner la RDC dans le développement des infrastructures et nous avons proposé un produit assez spécifique et original qui est le bitume en sac thermofusible, contrairement au bitume au fût qui se font généralement. Alors ce produit a quatre avantages. Le premier avantage, c'est que vous voyez, il est petit, comme un sac de ciment, vous pouvez le transporter facilement. Le deuxième aspect qu'il a, c'est qu'il n'a pas de perte. Parce que quand vous utilisez des bitumes en fût, vous avez un peu de perte avant de le mettre en œuvre et ça fait que ça fait coûter le produit in fine plus cher. Donc là, vous n'avez pas de perte. Et maintenant, nous travaillons actuellement sur la mise en place de deux usines, une à Matadi et une à Lumumbashi. Donc nous attendons les conclusions de l'office des voiries et de l'office des routes avec qui nous allons travailler. Et c'est de mettre en place des usines pour accompagner le processus. Aujourd'hui, en moyenne, avec un système d'enrobé, pour faire une roue d'un kilomètre, il faut compter à peu près 1 200 000 dollars.
Au Kassai oriental, les commerçants et commerçantes des marchés urbains de Mbujimayi éprouvent d'énormes difficultés dans leurs activités quotidiennes. C'est notamment le manque de ravitaillement en marchandises qui doit venir des provinces lointaines de Mbujimayi. Tous ces problèmes ont été relevés le week-end dernier lors de la rencontre entre les syndicats des marchés et les services étatiques taxateurs. Il s'agissait pour les commerçants de Mbujimayi d'être fixés sur la procédure à suivre dans le paiement des différentes taxes dues à l'État. Théodore Mbouyamba, coordinateur des syndicats des commerçants, revient sur ces difficultés. Il est au micro de Emmanuel Elaméjoua Kabedi.
Bon, les difficultés maintenant, c'est un peu difficile parce que pour avoir de la marchandise, avant on allait chez Beltesco, on pouvait acheter la marchandise sur place. Les Beltesco a aussi des problèmes parce que la marchandise de Beltesco venait par la voie fluviale. Maintenant, c'est difficile, il n'y a pas assez de marchandises. Les commerçants s'initient là, 2, 3, 4, ils vont à Chikapa ou bien à Kinshasa avec un camion. Il faut faire 4 mois, 5 mois avec les routes délabrées, tout ça de peine. On arrive ici, bon, on trouve au déchargement, il y a la nerf qui est là, il y a l'économie, il y a la dépeur, il y a le FIDA sur les camions, sur les produits locaux que nous avons achetés localement ici au Congo. Alors ce sont des difficultés, les bénéfices, on n'a pas de bénéfices, tout ça, et il y a aussi un problème des sociétés, on n'a pas de société ici chez nous en Mbujimayi, parce que quand on paye les gens à la fin du mois, vous verrez vous-même le pouvoir d'achat sur le terrain.
À Kindu, le Fonds international pour le développement agricole FIDA en sigle a fait l'évaluation du projet PIRAM, programme intégré pour la réhabilitation de l'agriculture au Maniema. Cela, 3 ans après son lancement. On note des points positifs, dont l'augmentation de production de riz aboutissant à la baisse de prix, jusqu'à 150 francs congolais la mesurette au lieu de 250. Des faiblesses cependant sont révélées, notamment la non-exécution des voies de desserte agricole. Racha Omar, chargé de programme de FIDA, est au micro de Rigobert Yumandouani.
La première, c'est au niveau de l'exécution des voies de desserte agricole et le retard qui est accusé au niveau de la réhabilitation de la RN31, ainsi que l'insuffisance au niveau de la répartition des voies de desserte agricole qui sont réhabilitées au niveau des différents bassins. La deuxième préoccupation était surtout au niveau de l'amélioration de la production agricole qui n'était pas encore au niveau des attentes des populations locales. Par rapport à la RN31, 31, je pense qu'il s'agit essentiellement d'un problème d'organisation. Organisation entre la direction générale de l'Office des routes et la direction provinciale de l'Office des routes pour que les travaux soient suffisamment approvisionnés en carburant et en ciment. On a vu plusieurs ruptures de stock alors qu'elles n'étaient vraiment pas justifiées parce que l'argent a été payé conformément à l'avancement des travaux et donc ces chantiers doivent être approvisionnés à hauteur de ce qui a été payé.
Écho d'économie. Je voulais annoncer, le gouvernement provincial de la province orientale s'engage à mettre fin au climat de malentendus entre la société Kibali Gold Mine et la société minière de Kilomoto Sokimo. Un climat engendré par la cessation par Kibali Gold Mine du versement de la rente de survie à Sokimo, tel que stipulé dans le contrat signé par les deux parties lors de l'implantation de Kibali en province orientale. Pour y arriver, le gouvernement provincial formule quelques recommandations aux deux entreprises, recommandations lues ce week-end au cours d'un point de presse par le ministre provincial en charge des ressources naturelles, Paulin Odiané, au micro de Anselme Massois.
À la Sokimo, 1. D'élaborer un plan de restructuration en vue de son adaptation à la conjoncture actuelle et de l'utilisation rationnelle des ressources financières disponible. 2. D'élaborer avec l'accompagnement de Kibali Gold Mining un business plan susceptible de favoriser sa relance rapide en mettant en place ses permis d'exploitation. À Kibali Gold Mining, d'envisager la possibilité de versement progressif des acomptes sur bénéfice à la Sokimo au prorata de son taux de participation à la société Kibali Gold Mine. Au gouvernement de la République, d'appuyer financièrement le plan de relance de la Sokimo à partir notamment de la redevance minière payée au trésor public par Kibali Gold Mine.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Nicole Gaka, mise en onde par Jean-Noël Mokondo et suivie par vous. Merci.